Seigneur, merci pour ta parole et pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de pouvoir être dans ta maison pour recevoir ce que tu as à nous donner. Et nous prions pour que ton esprit agisse, que ton esprit s'exprime, Seigneur, et que la chair puisse s'effacer, Seigneur, au milieu de nous. Viens régner par ta parole, Seigneur. Viens nous convaincre, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, de péché, de justice, de jugement. Viens nous éclairer aussi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Juges de Ruth, pardon, au chapitre 1er. Ruth au chapitre 1er. Donc à partir du verset 6, donc pour situer un petit peu le contexte, il y avait une famine à Juda, à Bethléem, et Élimélec décide, qui était juif, décide d'aller chez les Moabites pour fuir cette famine. Et donc lorsqu'il arrive là-bas, il meurt finalement, et ses deux fils qui se sont mariés plus tard vont mourir aussi. Ils sont restés environ 10 ans chez les Moabites. Et nous arrivons au verset 6. Puis elle se leva, donc on parle de Naomi qui était la femme de Élimélec, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si une autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, voilà cette phrase, verset 18. Naomi, la voyant décidée, alla avec elle. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Voilà la parole du Seigneur. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Naomi a perdu son mari, elle a perdu ses fils, et elle décide de retourner parce qu'elle a entendu que à Juda, l'Éternel a visité son peuple, il y avait du pain, et elle décide de retourner. Et lorsqu'elle retourne dans son pays, il y a ses belles-filles qui la suivent, et elle insiste auprès de ses belles-filles en disant, « Retournez parce que là, je ne sais pas ce qui m'attend devant moi. » Alors, pour être sûr, pour ne pas avoir des problèmes, qu'on se sépare ici et que moi, je continue ma route parce que jusque-là, l'Éternel, en quelque sorte, a étendu sa main sur moi et des malheurs se sont abattus sur moi. Alors, elle ne voulait pas prendre la responsabilité du malheur de ses belles-filles. Elle dit, « On va limiter la casse. vous, vous restez et moi, je vais continuer. Et on voit ensuite que l'une de belles filles, finalement, décide de retourner, Orpa, mais Ruth reste attachée à Naomi. Elle dit, là où tu iras, moi, je veux te suivre. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera aussi mon peuple. Alors, la question que je me suis posée en lisant ça, en voyant la détermination de Ruth, c'est que qu'est-ce qui fait que Ruth soit attachée à Naomi? Mais en réalité, ce n'est pas à la personne Naomi qu'elle est attachée. Ruth est attachée au Dieu de Naomi. Alors la question, c'est qu'est-ce qui fait cette détermination? Encore, elle aurait vu des miracles. Elle aurait vu des choses très belles. Mais là, on ne nous dit pas ça. Peut-être que ça s'est passé. Mais si le Seigneur a voulu qu'on ait cet épisode-là, c'est qu'il y a une raison derrière. Donc on peut supposer que Ruth n'a pas vu des miracles au sens humain. Son mari qui meurt, son beau-frère qui meurt, son beau-père qui meurt, la famine, la souffrance. Mais malgré tout ça, Ruth reste attachée à Naomi. Elle reste attachée au Dieu de Naomi. Et ce n'est pas seulement un attachement des lèvres. On voit qu'elle était déterminée à suivre sa belle-mère. Et la question que je me suis posée, mais comment ça se fait qu'une personne qui vit apparemment tant de malheurs peut continuer à suivre ce Dieu-là? On dirait en français même s'obstiner, c'est vraiment l'entêtement, elle s'entête à suivre ce Dieu-là. Pourquoi? Tout simplement parce que Ruth a expérimenté au fond d'elle que le Dieu de Naomi, le Dieu d'Israël, le Dieu de Juifs, c'est le véritable Dieu. En dépit de tout ce qu'elle a vécu, elle a expérimenté au fond d'elle que le Dieu d'Israël, c'est lui-là le seul véritable Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire parce qu'on ne voit pas ici où on nous dit que Ruth a vu des choses graves, extraordinaires que Dieu a fait. On ne le voit pas. On voit que malheur sur malheur. Mais malgré cela, elle dit, maintenant, je veux être adoptée par votre Dieu, par votre peuple. Votre peuple sera mon peuple. Et lorsque on réfléchit, on voit aujourd'hui, beaucoup viennent au Seigneur parce qu'on a des arrière-pensées, peut-être légitimes, parfois illégitimes. Mais on vient au Seigneur parce qu'on nous a présenté un Dieu qui guérit. On vient au Seigneur parce qu'on nous a présenté un Dieu qui va s'occuper de nos problèmes. On vient au Seigneur parce qu'on nous a présenté un Dieu qui va nous consoler de notre passé, qui a été parfois chaotique, plein de souffrances. Et pour toutes ces raisons-là, on vient au Seigneur, il y en a qui viennent au Seigneur pour des miracles, pour avoir la puissance. Il y en a qui viennent au Seigneur pour des miracles. Il y en a qui viennent au Seigneur pour différentes raisons. Mais là, Ruth n'a pas vécu tout ça. Mais elle est restée attachée à Dieu, puisqu'elle a expérimenté au fond d'elle que le Dieu d'Israël, c'est le véritable Dieu. Et lorsqu'on expérimente qui est Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose dans notre cœur qui devient comme radical, qui devient inchangeable, quelles que soient les situations, quels que soient les événements extérieurs. Ce que j'ai rencontré dans mon cœur, ce que j'ai reçu, ne dépend plus de ce qui est autour de moi. Lorsqu'on a expérimenté qui est Dieu, finalement, on peut dire comme l'apôtre Paul, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et cette phrase dit tout, elle dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment. Donc si on n'aime pas Dieu, finalement, les choses qui nous arrivent, eh ben, ça sera toujours des problèmes qui vont se rajouter. Mais celui qui aime Dieu, lorsqu'il vit les mêmes choses, il apprend à s'attacher encore à Dieu davantage. Parce qu'il sait quoi? Que c'est Dieu qui a permis cela. Et Ruth, le fait qu'elle ait expérimenté qui est Dieu, il y a quelque chose au fond d'elle. Naomi lui dit, non, pars. Elle dit, non, je refuse. Je veux rester avec toi. Jusqu'au verset 18, on nous le dit, comme Ruth insistait, Naomi se dit, bon, j'arrête. Puisqu'en réalité, Ruth a fait une expérience, a fait une rencontre. Alors je nous parle tous, moi le premier. On a beau être chrétien, oui, mais l'exhortation de ce soir, c'est une réflexion pour nous dire, qu'est-ce qui s'est passé dans notre cœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Avons-nous tendance, lorsque les choses vont mal, à murmurer? Je ne dis pas que murmurer, ce n'est pas bon. Ça peut arriver. Mais puisqu'on a choisi Dieu, parfois il y aura des pensées qui vont venir, mais on dira à ces pensées non. Parce que malgré tout, c'est Dieu que j'ai choisi. On se rappelle dans Job 2, la femme de Job qui vient voir Dieu pour dire « Mais tu restes intègre. Regarde les souffrances. Job a tout perdu au chapitre 1er. Au chapitre 2, le diable va voir Dieu pour lui dire « Maintenant, peau pour peau, on passe à une autre étape. Il a perdu ses enfants, il a perdu son bétail, il a perdu ses richesses. Maintenant, peau pour peau, c'est-à-dire attaque-toi maintenant à sa santé et tu verras ce que Job va faire. » Et Job était malade, à tel point qu'il prenait des tessons de bouteille pour se gratter. Et sa femme voit ça, elle dit « Non, là, Job, c'est trop. Malgré tout ça, tu restes intègre. Maudis Dieu et meurs. » Quelle est la réponse de Job? Il dit « Tu parles comme un insensé. » Tout ce temps-là, on peut dire que la femme de Job a expérimenté tout ce que Job vivait avec Dieu. Elle a vu cela. Il est écrit au chapitre 1er que Job offrait des sacrifices à Dieu pour ses fils en se disant « Peut-être que mes fils, en se réunissant, en buvant de l'alcool, ils ont offensé Dieu. » Mais sa femme voyait toutes ces choses-là. Elle était témoin de la vie de Job avec le Seigneur. Mais il est arrivé un moment où elle a sorti cette phrase pour dire « Ben non, là c'est trop. Maudit Dieu et meurt. » C'est là qu'on voit la différence. Celui qui a expérimenté qui est Dieu, c'est personnel. Il y a quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on expérimente qui est Dieu, eh ben, il y a quelque chose au fond de notre cœur. Il y a comme un cachet. Il y a une détermination qui est là, qui fait que les événements extérieurs, même si on a perdu physiquement, mais au fond de nous, il nous reste encore Dieu. Il nous reste encore, Job dit à sa femme, il dit, mais tu es insensé. Comment tu peux dire ça? Ce partage m'a été inspiré lorsque je suivais le témoignage, je pense qu'on a vu à plusieurs reprises, de cet homme. Mais c'est un témoignage que je regarde souvent, régulièrement, parce que c'est tellement beau. David Berkowitz, celui qu'on appelle le fils de Sam. Et c'était dans les années 70, 76, il a été arrêté en 77. Et cet homme, donc, c'était un juif qui a été adopté et qui a vécu avec une certaine amertume, une colère, parce qu'il avait été abandonné, il a été adopté, et il a grandi avec ça, avec cette amertume. Et voilà qu'il s'attache à sa mère, donc sa mère adoptive, celle-ci meurt d'un cancer. C'était encore une deuxième déception. Et cet homme avait comme une colère, une haine par rapport au monde, à tous ceux qui étaient autour de lui. Et il va tuer 6 personnes. Et lorsqu'on lui pose la question « Pourquoi tu as fait ça ?», il ne se cache pas, il dit « J'ai fait ça parce que j'entends des voix. » Et donc, il s'identifie à son voisin qui avait un chien. Et il dit « Ce voisin-là et son chien me parlaient pour dire « Tue ces personnes-là. » Et c'est pour ça que j'ai tué ces gens-là. Mais avec le sourire. Donc, il a été condamné. Donc, la peine a été cumulée. Donc, 6 personnes. Donc, il a pris la peine fois 6. Et il a eu, je crois, 300 ans de prison. Et cet homme, il fait son témoignage en prison. Le journaliste lui pose la question, mais qui êtes-vous? Il dit, je suis David Berkowitz, voilà, je suis juif, et j'ai grandi dans une tradition juive, on allait à la synagogue et tout ça. Mais, bon, au fond de moi, j'avais quand même ce souvenir-là du Dieu d'Israël. Mais les souffrances que j'ai vécues ont fait que, finalement, j'ai voulu me venger. Et je me cachais derrière le fait que j'entendais des voix. Parce qu'en réalité, j'étais fragile psychologiquement. Mais il dit, malgré tout, j'ai plaidé coupable de ce que j'avais fait parce que j'étais conscient de tout ce qui se passait. Et ce que j'aime, c'est là où il parle maintenant de son témoignage. Il dit, lorsque je me levais le matin, je n'avais même pas l'espoir de vivre. Je me disais, mais pourquoi vivre? Parce que je vivais avec la culpabilité de ce que j'avais fait, tuer 6 personnes. Je vivais avec la colère de me dire, 300 ans en prison, donc finalement, toute ma vie, je serai en prison. Il a été arrêté vers 23-24 ans. Et lorsqu'il témoigne, il avait 66 ans. Il dit, toute ma vie, je ne connais que la prison. Mais il dit, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, finalement, La prison que vous voyez là, qui fait peut-être 9 mètres carrés, pour moi, ce n'était plus rien. Il dit, lorsque je parle de ça, vous pouvez dire, et c'est ça que j'ai bien aimé, il dit aux journalistes, vous pourrez dire que c'est trop facile, parce que beaucoup disent que c'est trop facile. Tu as tué des gens, tu te retrouves en prison, tu dis maintenant j'ai rencontré Dieu. Il dit oui, je sais ce que vous pouvez penser, c'est trop facile, mais moi, je sais ce que j'ai expérimenté dans mon cœur. Je sais qui j'étais, et aujourd'hui, je sais qui je suis. Et cela, c'est grâce à Jésus. Jésus m'a pardonné de la culpabilité que j'avais, de la colère que j'avais, l'esprit suicidaire que j'avais, la haine que j'avais. Jésus m'a pardonné de tout cela. Il dit maintenant, je suis libre, même si je suis en prison, je peux témoigner du Seigneur. Je peux parler du Seigneur aux surveillants. Je peux parler du Seigneur à tous ceux qui s'occupent de moi. Je parle librement du Seigneur parce que finalement, cette prison dans laquelle je suis n'est plus une prison pour moi parce que je suis libre et je vis avec le Seigneur. Et c'est ça qui m'a interpellé. Je me suis dit, voilà, lorsqu'on expérimente qui est Dieu, il y a quelque chose au fond de nous qui devient radical. Et lorsqu'il parle, le journaliste sûrement l'écoute, mais un peu comme dépassé, il se dit, mais c'est tellement beau ce que vous dites. Il dit, oui, mais ce n'est pas des choses que je raconte, c'est ce que je vis, c'est ma vie à moi. En prison, j'ai expérimenté que Dieu est le véritable Dieu. Et finalement, la prison, pour moi, n'est plus un obstacle. Puisque c'est dans la prison que je loue le Seigneur. C'est dans la prison que je parle aux gens. C'est dans la prison que je prie même pour les familles des personnes que j'ai tuées voilà 40 ans. Mais je prie pour ces gens-là et je suis libre. Et mes yeux sont fixés sur les promesses à venir du Seigneur. Mes yeux sont fixés sur le retour du Seigneur. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, effectivement, c'est ça. Lorsqu'on a expérimenté qui est Dieu, ben finalement, notre condition de souffrance n'est plus une souffrance. Les gens vont te voir, ils vont te dire, mais il est fou. Mais regarde tout ce qui se passe autour de lui. Mais lui-même qui vit la situation, il y a une étude biblique qu'on avait faite où on parlait de la liberté en Christ, où le Seigneur dit dans Jean 8, 32, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et on disait que la liberté, donc là, il y a des gens dans la Bible qui ont compris que finalement, ils font une différence entre leur condition en tant qu'humain et la volonté de Dieu pour eux. Et ceux qui vivent avec le Seigneur, je m'explique, il y a des gens comme cet homme, David Berkowitz, il est en prison. Donc humainement parlant, voilà, il souffre. Mais finalement, la prison pour lui n'est pas une souffrance parce qu'il est libre en Jésus. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, moi je suis libre. Même si je suis menotté, même si parfois on peut mal me parler, mais moi, je sais que j'appartiens au Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que l'esclave, s'il est esclave, qu'il ne cherche pas forcément à se libérer physiquement parce qu'en réalité, vous êtes libre en Christ. Celui qui a expérimenté cela, il est libre. Même si apparemment il est esclave, mais finalement, il accepte sa condition d'esclave parce qu'en réalité, il est esclave de Dieu. Donc, sa condition à lui importe peu. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, même si moi je suis dans les chaînes, en réalité, Christ continue à agir. Moi, je suis enchaîné et nous lisons les épîtres de Paul. C'est en prison qu'il les écrit. Mais combien ça nous édifie ? Combien ça contribue à notre délivrance ? Pourtant, lui, il est enchaîné, mais il dit, même si moi je suis enchaîné, en réalité, ma condition à moi ne détermine pas ce que je vis avec le Seigneur. C'est cela. Et c'était l'exemple de cet homme David Berkowitz. Quand on l'entend parler, il dit finalement, les 300 ans, pour moi, c'est rien. Les gens voient ça, ils se disent, mais oh là là, le pauvre. Il dit, non, moi, je suis libre. Et j'attends le Seigneur. Mes yeux sont fixés sur le retour du Seigneur. C'est cela. Lorsqu'on a expérimenté qui est Dieu, il y a quelque chose de radical en nous. Je pense que cet homme-là, quelqu'un va lui venir lui dire pour lui dire, mettre une arme sur la tempe pour lui dire, renie Dieu. Il ne peut pas renier Dieu parce que c'est quelque chose qu'il vit au fond de lui. C'est une véritable expérience qui est radicale. Personne ne pourra l'enlever ça. Personne. Et c'est la même chose pour Ruth. Naomi a voulu repousser en disant non. Va faire ta vie ailleurs. Elle dit non. Moi, j'ai compris que le Dieu d'Israël, c'est le véritable Dieu. Et je veux suivre ce Dieu-là. Alors la réflexion ce soir, c'est de nous dire où en sommes-nous ? Est-ce que nous sommes comme la femme de Job, qui aime le Seigneur, qui partage avec Job les choses de Dieu, puis finalement un jour qui va dire, non, là Dieu, non, c'est bon là, là tu m'as fait souffrir. Ou est-ce que nous sommes comme Job, comme Ruth. Comme Naomi aussi, on parle de Ruth, mais Naomi, c'est la même chose. Elle a tellement souffert, mais elle est restée attachée au Dieu d'Israël. Puisqu'au fond d'elle, elle sait, elle savait, je n'ai même pas dit, elle savait, elle sait parce que Dieu est toujours là. Et au fond d'elle, elle sait que le Dieu d'Israël, c'est le véritable Dieu. Celui qui expérimente qui est Dieu, il y a quelque chose de radical. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà la véritable liberté selon Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, si le Fils vous a franchi, eh bien vous êtes réellement libre. Finalement, on ne vit plus de la peur. Du lendemain, comme la chorale chante, I'm free from the fear of tomorrow. Donc, je n'ai plus peur du lendemain. Mauvaise nouvelle, ceci, cela. Non, je n'ai plus peur parce que je sais que Dieu est là. Peut-être que ça va être facile, peut-être que ça va être difficile, mais je sais une chose. Job 19, 25, il dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Il est là. Quand, je ne sais pas, mais je sais qu'il agira. C'est ça. Alors l'exhortation, c'est de nous amener à chercher Dieu. À chercher davantage de Dieu, dire Seigneur, peut-être que je t'ai connu, puisque on m'a présenté à toi comme étant celui qui guérit. Et je suis venu à toi, gloire à Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas cela, ce n'est pas que ça, Dieu c'est un tout. Dieu c'est le Créateur. Dieu c'est celui qui peut permettre aussi qu'on vive des épreuves. Dieu c'est celui qui peut permettre aussi qu'on soit humilié. Quel péché Job a fait pour vivre ce qu'il a vécu ? Job n'a pas péché, mais la vie de Job était un enjeu pour Dieu. La vie de Job servait à manifester la gloire de Dieu. Job ne savait pas ça. Nous, nous lisons comme des gens qui regardent un match de foot. Nous sommes à l'extérieur, nous regardons les failles. Mais celui qui est sur le terrain, lui, ne voit pas ça. Il y a la fatigue, il y a tout ça. Il ne voit pas. Mais il y a une chose, c'est que la Bible dit, malgré tout, Job est resté intègre. Job ne pécha point contre Dieu, puisqu'il y a quelque chose qu'il a expérimenté au fond de lui. Il a dit à sa femme, il y a des limites à ne pas dépasser. Peut-être qu'il nous arrive de dire des paroles sous l'émotion, sous la colère, sous la déception. L'exemple de Job nous montre qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Si réellement on a fait cette rencontre avec le Seigneur, il y a quelque chose de radical en nous. On ne sait pas quoi. On va voir l'exemple de personnes qui sont comme nous, qui étaient dans l'incertitude quant à leur futur, mais ils avaient une chose, c'est qu'ils avaient expérimenté qui était leur Dieu. Alors devant la situation, l'adversité, ils ont dit à la personne, au roi, « Roi, nous n'avons pas de discours à faire. Peut-être que physiquement, tu as les moyens de nous tuer, tu as les moyens de nous neutraliser, tu as les moyens de nous faire mal à la chair, mais sache que notre Dieu, c'est le véritable. » Et le point que je veux souligner, c'est cette radicalité-là. Jusqu'au bout. Quand on dit que quelqu'un est radical, c'est-à-dire qu'il prend une position et il la maintient jusqu'au bout. Tous les jours, quand on vient le voir, il n'a pas changé sa position. Il reconnaît que Dieu est le véritable Dieu. Nous lisons Daniel au chapitre 3. Daniel 3. À partir du verset 14. Daniel 3, verset 14. Daniel 3, verset 14. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibéré Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voilà la réponse qu'il donne. Nous n'avons pas besoin. Donc on peut comprendre que nous n'avons pas le temps de discuter. Vous savez, parfois, lorsqu'on discute, on discute argument contre argument. Mais lorsque on est sûr, on sait que ce qu'on sait, au fond de nous est vrai, ben on n'a même pas le temps de discuter. Ce n'est pas comme en politique où la gauche dit ci, la droite dit ça, la gauche, ils se contredisent. Chacun pense avoir raison. Mais là, les amis disent, roi, nous n'avons même pas besoin de te répondre. En quelque sorte, tu perds ton temps. Si tu as pris ta décision, fais ce que tu as à faire. Nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas besoin de te démontrer que Dieu est Dieu parce que nous savons au fond de nous que Dieu est Dieu. Et nous continuons la lecture. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17, « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi le roi Nabucodonosor fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de le jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabucodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et il dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent, « Ô roi, certainement ô roi !» Nous allons au verset 28. Nabucodonosor prit la parole et dit, verset 28, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quel peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, puisqu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Amen. C'est ça que nous disons. Lorsqu'on expérimente qui est Dieu, il y a quelque chose de radical dans notre cœur. La vérité est radicale. Personne ne peut la changer. Les moqueries ne vont pas changer cela. Il y a des gens, lorsque on se moque de toi, eh ben, tu mets un peu d'eau dans ton vin par rapport à Dieu. On se dit, bon, il ne faut pas choquer. Il ne faut pas déranger. Après tout, c'est ma famille. Lorsque la pression est là, la persécution à cause du Seigneur est là, on se dit, bon, on va modérer un petit peu. Mais voilà l'exemple de ces hommes. Comme on a dit tout à l'heure, ils disent au roi, nous n'avons pas le temps de discuter. Nous, ce que nous savons dans notre cœur, c'est que l'Éternel est le seul et le véritable Dieu. C'est ça que nous savons. Maintenant, si toi, tu as décidé quelque chose, fais ce que tu as décidé. Mais nous, au fond de nous, nous savons que lui est le véritable Dieu. Et cette position qu'ils prennent, c'est parce qu'au fond d'eux, ils ont expérimenté qui est l'Éternel. Peut-être que nous avons des doutes. Peut-être que nous avons des questionnements. Peut-être que nous avons des inquiétudes. Ce soir, le Seigneur nous dit, mettons confiance en lui. Disons, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie qui tu es. Pour que je comprenne que finalement, tu es plus grand que les problèmes qui peuvent m'assiéger, qui peuvent me déranger. Voilà que devant la persécution, devant la mort qui est devant eux, ces hommes restent fidèles à Dieu. Ils disent non. Même s'il arrivait que notre Dieu ne nous délivre pas, nous savons une chose, c'est que notre Dieu est là. Tu peux tout nous prendre, comme a dit David Berkowitz, il a dit, on peut tout me prendre, mais moi j'ai Jésus et je suis libre. Voilà. Mais qui peut t'enlever ça? Qui peut t'enlever ça? On va te mettre au cachot, on va te lier. Mais lui-même, il dit, même si je suis dans cette condition, moi, je sais que je suis libre. Voilà. C'est ça la vraie liberté. Mais cette liberté, on la vit lorsqu'on est, on expérimente qui est Dieu. Lorsqu'on ouvre son cœur au Seigneur, je ne parle pas d'être chrétien qui vient le vendredi, le dimanche. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ça. Je parle d'avoir une relation avec Dieu, d'expérimenter. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons lorsque Dieu se révèle à Abraham, à Isaac, à Jacob, Dieu se révèle à chacun, même s'ils ont eu le témoignage de qui était Dieu, mais personnellement, ils ont expérimenté qui est Dieu. Ils l'ont expérimenté. Et à chaque fois, ils donnaient des noms à Dieu. Abraham dit l'Éternel qui pourvoit parce qu'il a été dans une situation. Mais comme il connaissait Dieu, il a obéi. Et finalement, Dieu a pourvu. Alors lorsqu'on va venir te dire, mais ton Dieu ne fait rien pour toi. Même si humainement il ne fait rien pour toi, tu ne vois pas de bénédictions, mais au moins tu sais que non, il agira. Si c'est comme ça, c'est qu'il a décidé que ce soit comme ça. Isaac a connu la souffrance, la galère. Et finalement, il fait son puits, il dit, l'Éternel m'a justifié, m'a mis au large. Bien qu'ils avaient le témoignage de Dieu, individuellement, Jacob, on connaît l'histoire, où il a combattu, pas contre Dieu, mais avec Dieu. Et nous connaissons la promesse qui émane de cette lutte. Il est devenu Israël et nous connaissons toutes les promesses qui découlent de cela. Mais c'est des gens qui ont expérimenté qui est Dieu, qui ont compris qui est véritablement Dieu. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas affaire à une entité comme ça divine. On prie et puis non. Au fond d'eux, ils savaient qui était Dieu. Et ce que je dis, c'est que lorsqu'on on expérimente cela, il y a quelque chose qu'on ne peut plus nous enlever. Personne ne peut nous enlever cela. Et c'est ce qui est arrivé aux amis de Daniel. Le roi met la pression. Il regarde, il dit « chauffez cette fois plus ». En espérant peut-être que ces personnes allaient changer, dire « Bon, roi, attends, on va négocier. » Non. Et c'est lui-même, le roi, qui témoigne, qui dit « Le Dieu de Daniel, le Dieu de ses hommes, le Dieu des Juifs, c'est lui qui est le véritable Dieu. » C'est cela. Et c'est là que le Seigneur veut que nous puissions arriver. Il veut que nous puissions connaître, comprendre qui il est. Lorsque David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais c'est parce qu'il a vécu cela. Lui-même étant berger, il sait ce qu'est le travail d'un berger. Et il sait ce que Dieu a fait pour lui aussi. Et ayant cela en lui, même lorsqu'il arrivait d'une situation pour faire le mal, David ne faisait pas cela parce qu'au fond de lui, comme il dit à Saül, il dit que la méchanceté appartient aux méchants. Il dit, un homme qui est touché par Dieu, il ne peut pas avoir en lui la semence du péché, la semence de la méchanceté, de la colère. Il ne peut pas avoir cela. Il ne peut pas avoir cela. Ça peut arriver qu'il perd la maîtrise, mais puisque c'est au fond de lui, c'est radical, le Saint-Esprit va le raviser pour dire non, tu as mal fait. Tu as mal fait parce que toi, tu es de Dieu. Et ça, c'est puisque ces gens ont expérimenté. Et maintenant, la question, c'est comment expérimenter cela? C'est en acceptant la vérité telle qu'elle est, en acceptant la Bible, en acceptant comment Dieu se présente à nous. Acceptons cela. Acceptons lorsque le Seigneur vient et dit à Pierre, jette le filet. L'ordre peut paraître peut-être banal pour nous qui lisons. Mais pour lui, Pierre, qui est un pêcheur professionnel, qui a travaillé toute la nuit en plus, le Seigneur vient te dire, jette le filet. Mais il faut vraiment être un enfant pour accepter l'ordre du Seigneur. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, maître, mais nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Il dit, Pierre, c'est moi qui parle, jette le filet. Et là, il jette le filet. Et voilà la pêche qu'ils font. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre vient se prosterner, il dit, non, nous sommes des hommes pêcheurs. Apparemment, il n'y a pas de rapport entre l'ordre du Seigneur et la réaction de Pierre. Il n'y a pas de rapport. Mais finalement, il y a un rapport parce que Pierre reconnaît que là, j'ai affaire au Créateur, au Dieu Tout-Puissant. J'ai affaire au Dieu Tout-Puissant. Et puisqu'il est Dieu, il est Tout-Puissant, il est saint, il est mis à part, moi, je suis un homme petit, pécheur, mauvais. Et ça, c'est resté au fond de lui. C'est resté au fond. Jean, chapitre 6, verset 60. Jean 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est un parmi vous, quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Nous n'avons pas lu, mais juste avant, Jésus parle avec les Juifs. Ils discutent, ils échangent. Et à un moment, ils disent, nous sommes les fils d'Abraham, c'est nous qui avons reçu la promesse, nous faisons comme Abraham, ils sont dans un débat. Et Jésus arrive, il dit, non, c'est moi le pain qui suis venu, descendu du ciel. Il dit, il faut manger de ma chair et boire de mon sang. Et là, les gens se disent, mais c'est pas possible. Comment il peut dire des choses comme ça? Mais s'il était de Dieu, comment il peut aller? Parce qu'il y a des ordres que Dieu a donnés dans l'Ancien Testament où il dit qu'ils ne doivent même pas toucher le sang, s'approcher du sang, parce que dans le sang, il y a la vie. Et Jésus, voilà, qui apparemment vient contredire tout ce qu'ils ont appris. Ils se disent, mais c'est pas possible. Mais comment il peut dire ça? Et à ce moment-là, la foule qui était là, un à un, ils sont partis. Et il reste les apôtres, les 12. Jésus se retourne et leur dit, mais vous, pourquoi vous ne partez pas non plus? Ils disent, maître, où est-ce que tu veux que nous allions? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Fils de Dieu. Voilà ce que Pierre dit. Voilà ce que Pierre dit. Nous avons connu et nous avons cru au fond de nous, même si ce que tu dis ne va pas toujours avec ce que nous avons appris, parce qu'il faut se mettre dans le contexte. Pour les disciples, marcher avec Jésus tous les jours, ce n'était pas de tout repos, parce que Jésus était critiqué, parce que Jésus était catalogué, on disait de lui, mais il va chez les pécheurs. Et pour les Juifs, pour la religion de l'époque, c'était mal vu, donc c'était une souffrance aussi pour les disciples en quelque sorte, puisqu'ils étaient avec lui. Donc non seulement Jésus souffrait, mais eux aussi, ils souffraient avec Jésus de tout ça. Et voilà qu'ils arrivent, Jésus dit, bon maintenant il faut me manger ma chair et boire de mon sang. Nous, lorsque nous lisons, on sait que c'est spirituellement, tout ça. Oui, ça c'est des choses que nous connaissons, mais pour eux, à ce moment-là, lorsque Jésus parle, ce n'était pas évident. Ils devaient se dire, mais où est-ce que le maître veut nous emmener encore? Quel problème le maître veut nous créer? Mais il y a une chose, c'est qu'ils avaient expérimenté qui était Jésus. Et dans leur cœur, cette vérité était radicale, au fond d'eux. Même si la chair n'était pas peut-être d'accord avec ça, mais au fond d'eux, ils savaient, non, Seigneur, c'est auprès de toi qu'il y a la vérité. Voilà pourquoi nous voulons rester avec toi. C'est vraiment le même exemple que Ruth. Il dit, nous avons connu et nous avons cru que tu es le Fils de Dieu. Et nous voulons rester attachés avec toi, à toi. Comment expérimenter cela? C'est accepter la vérité telle que le Seigneur se présente à nous. Accepter cela. Au lieu de chercher à tout le temps discuter. Lorsque nous parlons du Seigneur, Disons aussi aux gens la vérité. Lorsque quelqu'un se convertit en écoutant la vérité, eh ben, ce que j'ai dit tout à l'heure, cette chose dans le cœur, cette conviction que Dieu est Dieu, que Dieu est le seul, l'unique, le tout-puissant, lorsqu'on prêche la vérité à quelqu'un, ça, personne ne pourra lui enlever. Il y a souvent, lorsqu'on parle de l'Église persécutée, et parfois on nous parle de ça en nous disant, ceux qui se convertissent dans ces conditions-là, que ce soit en Turquie, que ce soit dans les pays où il y a vraiment la persécution, en Corée, tous ces pays-là, quand quelqu'un se convertit là-bas, c'est qu'il a signé en même temps son arrêt de mort. Mais, puisqu'il a reçu la vérité, eh bien, il accepte aussi les conséquences qui iront après. Il accepte cela. Il est conscient. Mais, comme c'est la vérité, eh bien, il accepte cela. Il accepte cela. Et comme j'ai dit au début, parfois, on peut venir au Seigneur avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup de projets aussi. Certains qui peuvent paraître légitimes. Mais à un moment donné, le Seigneur va nous mettre devant nos responsabilités, comme ça a été le cas pour Pierre, comme ça a été le cas pour la femme de Job, comme ça a été le cas pour Shadrach, Meshach, Abednego. À un moment, le Seigneur va nous mettre devant nos responsabilités pour que nous puissions déclarer clairement, Seigneur, c'est toi que j'ai choisi. C'est cela. D'où l'intérêt de prêcher la vérité. Comme le Saint-Esprit nous conduit, prêcher la vérité. Afin que celui qui entend, qu'il sache aussi à quoi il s'engage. Qu'il comprenne que lorsqu'on vient au Seigneur, eh ben, le petit copain, c'est fini. Qu'il sache que lorsqu'il vient au Seigneur, le mensonge, c'est fini parce que ce n'est pas de notre nature. Et Dieu va nous aider. Qu'il sache que lorsqu'il vient au Seigneur, il devra renoncer à sa fierté, à son moi. Il faut que les gens soient au clair par rapport à tout ça. Il faut que les gens soient au clair. Un petit témoignage, le samedi dernier, nous avons eu un concert à Honfleur et il y a une dame qui organise un concert au mois d'août, qui organisait à Cabourg, qui était présente et elle n'était pas bien à la fin du concert. Elle a parlé avec des bien-aimés pour dire « Oh là 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 là, mais vous n'arrêtez pas de parler de Jésus. » Mais c'est étonnant parce qu'elle traitait avec Mylène, cette dame, et moi j'entends ça par ricochet. Mais je me dis mais comment elle est dérangée à ce point-là? Elle appelle tout le temps, elle envoie des mails en disant « Bon, nous, ce qu'on veut, ce que nous organisons, c'est une soirée musicale. Ce n'est pas une soirée religieuse, ce n'est pas un culte où vous parlez de Jésus à tout bout de champ. » Elle dit « Bon, on va trouver un compromis. Dans ce cas, vous chantez en anglais. Comme ça, les gens ne comprennent pas ce qui est dit. Ou alors, si vous chantez en français, ne parlez pas de Jésus. N'intervenez pas entre les chants. » Bon, on a dit « Bon. Que la volonté de Dieu soit faite, mais advienne que pourra, peut-être que sur le terrain, si le Dieu nous inspire. » Mais finalement, elle rappelle encore pour dire « Mais j'ai pris contact avec le groupe gospel aux États-Unis, j'ai donné votre répertoire, mais finalement, votre gospel, ce n'est pas du gospel parce qu'ils ne connaissent pas vos chants. » Et finalement, hier, elle renvoie un message pour dire « Bon, allez, je ne donne plus suite à votre... » Vous voyez comment la personne est perturbée. La personne est dérangée. Et parfois, humainement, lorsqu'on voit ça, on se dit « Bon, on va se taire, on va être sage. » Non. Tel que le Seigneur nous inspire, faisons les choses. S'il faut dire à la personne, viens à Jésus, sinon si tu meurs, il y a l'enfer qui t'attend. Qu'on le fasse tel qu'on est inspiré. D'autres vont dire, non, c'est trop radical. Non, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. David Berkowitz, dont j'ai parlé tout à l'heure, on ne lui a pas dit, mais quand tu vas accepter Jésus, eh ben, les portes de la prison vont s'ouvrir. On ne lui a pas dit ça. Ou peut-être même qu'on lui a dit ça. Mais ce n'est pas ça qui a intéressé. Lui, ce qui a intéressé, c'est que le Seigneur me promet le ciel. Il a pris l'exemple de ce voleur à la croix en disant, voilà, la sentence était dite. Mais finalement, ce qui importait pour lui, ce voleur n'a pas dit au Seigneur, « Seigneur, si tu es vraiment Dieu, libère-moi maintenant pour que je... » Non, il a dit, « Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne, Seigneur. » Voilà. Ce qui importait pour cet homme, c'était d'être avec le Seigneur. Amen. C'était d'être avec le Seigneur. C'est ça qui importait pour lui. Et c'est ce que David dit. Dis-moi, ce qui importe pour moi, c'est que le Seigneur m'aime. Il dit, j'ai manqué d'amour. J'ai fait du mal aussi aux gens parce que j'ai manqué d'amour. Mais, malgré tout, Dieu m'a pardonné. Il dit, je ne mérite même pas cela. Je ne mérite pas cela. Mais on m'a prêché la vérité. On m'a dit, tu as mal fait, voilà pourquoi tu es condamné à 300, imaginons 350 ans de prison. C'est de la folie. Mais on m'a présenté Jésus-Christ comme étant le sauveur. Si j'accepte Jésus, eh ben, je serai avec lui. Il me pardonne de tous mes péchés. Et c'est comme ça, c'est l'évangile tel qu'il lui a été présenté. Et c'est ça qui fait qu'il a cette assurance, cette radicalité-là. Lorsqu'il parle, il parle du Seigneur. Il dit, les gens disent, c'est trop facile. Il dit, oui, peu importe ce que les gens pensent. Moi, je parle de ce que j'ai vécu. Amen. C'est cela. Alors lorsque le Seigneur nous met à cœur de parler, de dire la vérité, disons la vérité telle qu'on est conduit. Parfois, on sera conduit aussi à se taire, mais parfois, on sera conduit à dire des choses. Et l'attitude de cette dame m'a interpellé. Je me suis dit, mais finalement, elle est vraiment dérangée. Parce qu'on a eu affaire à des concerts, parfois à des endroits où on n'était pas invité. Les gens étaient en colère, ils boudaient après le concert. Mais là, on voit que... Donc, elle envoie des mails, elle appelle, elle... Dérangée jusqu'au bout, elle dit finalement, on ne fera plus le concert. On dit, bon, que Dieu soit béni, mais au moins, elle a entendu en fleurs. Ce qui a été dit, elle a entendu. Voilà. Maintenant, on croit, comme il est écrit dans Marc 4, 26, que la semence est semée. Maintenant, nous, on regarde de loin. Dieu sait ce qu'il se passe. Voilà. Puisque pour une personne avoir une telle réaction, c'est qu'au fond d'elle, elle est dérangée. Et l'exemple, c'est l'exemple de qui? C'est l'exemple de Paul. Paul persécutait et tuait les chrétiens. Mais en réalité, au fond de lui, Paul était dérangé. Paul était dérangé au fond de lui. À tel point que dans Acte 9, le Seigneur lui dit, mais pourquoi tu résistes? Pourquoi le Seigneur lui dit ça? Parce qu'il avait bien compris. Il avait compris que Jésus-Christ est fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est le Sauveur. Paul avait compris cela. Il avait compris. Donc ne soyons pas étonnés lorsque nous disons la vérité, que les gens réagissent mal. Au contraire, c'est que quand ils réagissent mal, c'est que ça pique. Alors laissons maintenant Dieu faire son œuvre. Mais nous, disons la vérité. Nous aimons la vérité. C'est par la vérité que nous serons véritablement libres. C'est par la vérité, la parole, que nous allons expérimenter qui est Dieu. La parole va te dire, crois en moi. Jean 11, 40, ne t'ai-je pas dit, crois, tu verras la gloire de Dieu. Eh bien, je crois en ce qui est écrit. David Berkowitz dit, il prend Éphésiens 3, 20 et il dit, c'est écrit que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et il s'applique à ce verset-là. Souvent, quand les chrétiens utilisent ce verset-là, c'est pour dire, oh là là, Dieu va faire, j'ai demandé une voiture, Dieu va me bénir d'un bon travail, en plus une voiture. Mais lui s'applique, comment il s'applique ce verset-là? Il dit, Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il dit, moi, je ne demandais que d'être accepté par les gens, d'être pardonné. Mais Dieu, non seulement il m'a pardonné, il a fait de moi son serviteur. Il dit aux journalistes, aujourd'hui, je suis l'instrument de Dieu. Donc, je n'avais même pas dans mes rêves imaginé cela. Aujourd'hui, je parle de Dieu, je vous parle. Il dit aujourd'hui dans ma cellule, dans le temps de promenade, je parle aux gens de l'amour de Dieu. Je chante pour Dieu. Mais non seulement cela, il me promet encore. Il me dit, lorsqu'il viendra, il va me chercher. Nous voyons la nuance, la différence. Ce verset-là, et il fera. On voit des grandes choses. Lui, il dit non. Moi, le fait qu'il m'ait transformé, qu'il ait touché ma vie, qu'il m'ait délivré, que je sois pardonné de tout ce que j'ai vécu, de méchant, de la culpabilité. Imaginez vivre avec la culpabilité d'avoir tué quelqu'un. Il dit, tous les jours, des pensées de suicide au fond de moi. J'avais honte de moi. Mais Dieu, il dit, Dieu a fait plus que je pouvais imaginer. Aujourd'hui, non seulement je suis pardonné, mais je le sers. Je parle pour lui. Je témoigne pour sa gloire. Alors, que sont mes 350 ans de prison devant cela? Il dit, pour moi, c'est rien, parce que mes yeux sont fixés vers le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous aide à expérimenter qui il est. Et lorsque nous expérimentons qui est Dieu, qui est Dieu, eh ben, il y a cette assurance que personne ne peut nous enlever. On peut parler comme cet aveugle-né qui est allé voir les pharisiens pour dire, ah, moi je ne sais pas. Je ne sais pas si cet homme est ceci ou cela. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Qui peut m'enlever ça? Qui peut enlever? Parce que je pense que si ces gens avaient le pouvoir de faire redevenir cet homme aveugle, ils allaient le faire pour leur gloire. Mais Dieu a déjà parlé. Qui va parler? Qui va dire le contraire? Il dit, moi je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. maintenant je vois. Je sais aussi une chose, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc si aujourd'hui je vois, c'est que cet homme vient de Dieu. Donc il a expérimenté quelque chose que personne ne pouvait l'enlever. Les gens disent, mais tu es né tout entier dans le péché, tu viens nous parler, allez quitte ici. Mais lui au fond de lui, voilà, il avait cette liberté-là. Et c'est ça que le Seigneur veut nous faire entrer dans cette profondeur. Ne soyons pas tout simplement superficiels, mais allons, expérimentons qui est Dieu. Comme l'apôtre Paul qui dit, maintenant que j'ai compris qui est le Seigneur, maintenant que je sais d'où le Seigneur m'a tiré, il dit maintenant, je n'ai plus honte de parler de l'Évangile. Je n'ai plus honte d'annoncer l'Évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il est libre de cela, mais puisqu'il a expérimenté. Pierre, devant le Sanhédrin, devant tous ces gens, il parle simplement de Jésus-Christ. Il dit, Jésus-Christ que vous avez crucifié, voilà, il est revenu à la vie. Celui qui croit en lui ne passe pas en jugement, il est sauvé. Celui qui refuse passera en jugement, voilà. On y met des gens sans instruction, oui, puisque Dieu a fait des choses simples. Il n'a pas besoin qu'on comprenne tout, mais il a besoin qu'on sache qu'il est le véritable Dieu, c'est tout. C'est tout. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à aimer la vérité, à nous accrocher à la vérité, pour que Dieu nous aide à lui faire confiance, à comprendre qui il est. Prions pour que Dieu nous ouvre aussi nos yeux, pour qu'au travers de tous ces exemples, que nous puissions comprendre ce qu'est la volonté de Dieu, que nous puissions ressembler à ces personnes, que nous puissions ressembler à notre Seigneur Jésus, que nous puissions prendre exemple sur nos prédécesseurs, sur Ruth, sur Pierre et les apôtres, sur Shadrach, Meshach, Abednego, sur Job, qui, malgré tout ce qu'il a vécu, est resté attaché à Dieu, que nous puissions prendre exemple sur tout cela dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu vivant. Seigneur, merci parce que nous voyons la détermination de Ruth, Seigneur, à rester attachée avec toi. Seigneur, parfois nous voulons, Seigneur, que tu te manifestes d'une certaine manière pour que les gens croient que tu es Dieu. Parfois nous voulons que tu fasses des miracles. Parfois nous voulons, Seigneur, que tu te manifestes de manière extraordinaire pour que les gens croient. Mais Ruth a connu que malheur sur malheur. Mais malgré tout, elle a cru au fond d'elle que tu es le véritable Dieu. Même Naomi n'a pas réussi à l'empêcher, Seigneur, enlever ce qu'elle avait au fond d'elle, puisque c'était scellé au fond d'elle, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides aussi. Nous prions, même si nous ne voyons pas, Seigneur, mais que nous puissions avoir cette certitude que tu es le véritable Dieu, quoi qu'il arrive. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir l'attitude qu'ont manifesté Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient dans l'incertitude totale, Seigneur, quant à leur avenir sur la terre. Mais ils avaient la certitude que toi, tu restes Dieu, Seigneur. Pourtant, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Pourtant, ils n'avaient peut-être pas compris les promesses liées à la résurrection à venir. Pourtant, ils n'avaient pas compris toutes ces choses que nous avons clairement, Seigneur, en notre Seigneur Jésus. Eux, ils n'avaient pas tout compris, tout cela, mais ils sont restés fermes et radicales, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à manifester la foi que ces hommes ont manifestée. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à ressembler, Seigneur, à Pierre. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à réaliser combien tu es grand, combien tu es tout-puissant. Aide-nous à réaliser, Seigneur, que même les malheurs qui peuvent nous atteindre, Seigneur, c'est toi qui le permets, Seigneur. Puisque tu es Dieu, tu as la capacité, Seigneur, de nous laisser même dans les épreuves, sans sentir, Seigneur, les conséquences de ces épreuves, Seigneur, sans sentir la difficulté liée à ces épreuves. Tu es tout-puissant aussi pour nous délivrer même de ces épreuves que nous connaissons. Mais dans tous les cas, nous voulons, Seigneur, réaliser que tu es Dieu. Au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, à accepter la vérité telle que tu nous l'as donnée, Seigneur. Aide-nous à lire ta parole. Aide-nous, Seigneur, à lire tes promesses et que cela nous ouvre les yeux, Seigneur, pour que nous puissions comprendre qui tu es. Seigneur, nous voyons l'exemple de cet homme, David Berkowitz, qui a reçu la parole, qui a reçu la vérité et cette parole, malgré sa condition, il vit comme l'homme le plus heureux. Même si c'est vrai qu'être dans les chaînes, être enfermé, parfois, c'est difficile. Mais il y a une chose, Seigneur, qui lui reste, c'est l'espérance. L'espérance de te voir un jour. Il y a une chose qu'il garde précieusement, c'est que cette terre, elle passera. Mais toi, tu demeures éternellement, Seigneur. Il y a une chose qui est certaine, c'est que dans Jean 14, tu dis que tu es parti nous préparer des places. C'est ça l'espérance, l'assurance que nous voulons garder. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui agit dans nos cœurs. Merci pour ta parole qui est scellée, Seigneur, dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom pour ta fidélité et ta grâce. À toi la gloire au siècle des siècles. Amen.